Est-ce qu'on aura un masque ou pas? Alors là, ça, j'en sais rien. J'espère bien que non. Les trois surprises qui nous attendent quand on va arriver au ciel. La première, c'est... Ah, punaise, t'as vu, il y a celui-là. Ah, j'aurais pas cru, hein, là. C'est étonnant, hein? T'es d'accord? Ouh, par contre, il n'y a pas celui-là. Ah, un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dernière surprise, punaise, moi j'y suis aussi. C'est incroyable, ça, j'aurais pas imaginé, peut-être. Je ne sais pas. On va parler de quelque chose d'organique ce matin, comme étant une de nos manières de vivre en tant qu'Église. Une manière de vivre organique. Et on va voir avec le texte que j'ai choisi, la parole que nous allons méditer, que il y a des fantômes là sur la batterie. On va voir que cette manière de vivre organique a quelque chose à voir avec la fin des temps, avec ce qui va se passer dans le futur, à la fin des temps. C'est pour ça que je vous ai raconté cette petite anecdote des trois surprises que nous allons vivre en arrivant au ciel. Alors, je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de côté organique. Ça peut être ça. Cette belle photo, hein, c'est moi qui l'ai fait. Un magnifique champ de colza sur les hauteurs près de Burtigny. Et on voit que là, c'est globalement assez bien aligné. C'est un champ assez suisse, comme on est le jeune fédéral, et puis qu'on pense à notre pays, on peut dire que c'est un champ assez suisse. Ça, c'est presque encore un champ plus suisse, comme ça. C'est organique, ça pousse. Suisse-allemand, on me souffle à l'oreille que... Je ne sais pas, parce que je crois qu'on est tous la même chose, là, Suisse-Romand, Suisse-Allemand, on est tous attirés à la même corde, et puis on a ces caractéristiques-là qui nous sont communes. Et puis, on a peut-être aussi ça qui nous vient à l'esprit comme un champ qui est peut-être plus varié, qui a peut-être des herbes différentes. Là, c'est devant le chalet du Clos des Pierres de la Ligue, à Rougemont, qui peut être plus mélangé. Jésus aimait bien raconter des histoires. Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans les évangiles, il y a beaucoup d'histoires qui nous sont racontées par Jésus. Et souvent, ces histoires, elles prennent pied et puis inspiration sur la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, c'était souvent une vie qui était faite avec des histoires de paysannerie, de travail de la terre, des histoires qui nous parlent de ces côtés justement organiques, de ces côtés qui poussent, qui croissent. Paradoxalement, les théologiens, ils ont réussi à accoler un nom à ces histoires, ils les ont appelées des paraboles. Alors, c'est vraiment paradoxal parce que c'est des histoires qui nous parlent de la vie quotidienne, on les appelle des paraboles. Et puis ça, est-ce que c'est un terme que vous employez souvent dans votre vie quotidienne? À part les profs de maths, je dois dire, je pense qu'il n'y a personne qui utilise ce mot de parabole. Et encore, ça devait faire partie du programme de 7e année. Et puis, on a une fois appris à dessiner une courbe comme ça. Je ne sais même plus comment la faire, mais je crois que c'est à peu près comme ça, une parabole. Retenons plutôt le terme d'histoire qui nous ouvre sur une réalité qui nous dépasse. Et cette réalité qui nous dépasse, c'est dont une des valeurs on essaye de faire nôtre en tant que communauté, cette réalité organique. C'est-à-dire que ça pousse, ça croît, pas dans le sens de la foi, mais ça croît dans le sens de la croissance. Et cette parabole, cette histoire que je vais vous raconter ce matin, à la suite de Jésus, elle nous parle de croissance, de quelque chose qui grandit. Peut-être aussi encore ça, organique, ça c'est la maison du Hobbit, qui se mélange à travers avec la nature. Il leur proposa cette autre parabole ou cette autre histoire. Il en vint du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient. Il sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, eh bien, la mauvaise herbe parut aussi. Alors les esclaves du maître de la maison vinrent lui dire, un peu estomaqués, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, mais veux-tu que nous allions le chercher? l'arraché, pardon. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Voilà l'histoire que Jésus raconte. Ensuite, dans l'évangile de Matthieu, c'est au chapitre 13, si vous voulez suivre dans votre Bible, il raconte encore deux histoires différentes qui montrent que la graine qui est en terre, elle pousse toute seule par la force de la vie, la force que Dieu met en elle. Deux petites histoires intercalées qui sont là, du verset 31 au 36. Et ensuite, Jésus donne l'explication de l'histoire qu'il vient de raconter. C'est ce que je nous propose d'écouter maintenant. Alors Jésus laissa les foules et entra dans la maison. Et ses disciples vinrent lui dire, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, ce n'est pas qu'un calendrier, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles, nous en avons, entende. Amen. Contrairement aux apparences et à la première question des disciples, je trouve que cette parabole, cette histoire, est avant tout une histoire d'espérance. On a tendance, et les disciples font exactement la même chose, à se focaliser sur la mauvaise herbe, sur ce qui se passe avec cette mauvaise herbe qui prend tout l'espace, qui est jetée au feu, et avec les conséquences dramatiques qui en découlent. On a tendance à se focaliser là-dessus, on a tendance à appeler ça la parabole de l'ivraie et du bon grain. On a tendance à parler aussi de mauvaises graines, de choses qui envahissent. Et on en oublie qu'avant tout, cette parabole, en fait, elle est centrée sur ce bon grain, sur cette bonne semence qui est semée. Et si on réfléchit bien, il est avant tout question du bon grain. Que malgré toutes les avancées de l'ivraie, le bon grain reste là, présent, et en plus, vous savez quoi? Il continue de pousser. Ce bon grain, il est là et il continue de pousser. Notre série de prédications, depuis 5 dimanches déjà, s'intitule La vie continue. Ce n'est pas de l'optimisme béat, encore moins l'idée de minimiser la situation sanitaire, ça en aurait de la peine, et encore moins de s'y soustraire. C'est plus de dire, et puis c'est bien que puisse le dire dans ce moment de jeûne fédéral, que notre Dieu est au-dessus de tout cela et que nous sommes entre de bonnes mains. Et cette parabole vient peut-être de manière surprenante, car en méditant ce texte, je n'avais pas l'intention de m'attarder longtemps là-dessus, nous dire que le bon grain continue de pousser et que nous sommes entre de bonnes mains. L'ivraie, c'est-à-dire peut-être les mauvaises nouvelles, la souffrance, le mal, a une propension forte à occuper tout l'espace, à retenir toute notre attention. Il y a un pouvoir, là, fascinant du mal, qui fait qu'on ne voit plus que ça, qu'on se prend peut-être à être engouffré, attiré dans cet abîme où on ne voit plus que ça. Et ce qu'on vit actuellement, cette tentation-là, elle est quand même assez majeure. On est assailli par ces mauvaises nouvelles, on est assailli par ces précautions qu'il faut prendre, et on se demande encore si on a les forces pour que la vie continue. On se pose la question à chaque fois, puis moi je vous remercie d'être si nombreux ce matin, Pour nous, en tant que conseil, quand on a dû réfléchir à comment on allait vivre ce culte ce matin, puis se dire, et comment vont réagir les gens de la frat au fait qu'on soit tous masqués? Que tout le monde va être masqué pendant 1 heure et demie. Est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils ne vont pas venir, est-ce qu'ils vont préférer regarder en vidéo, ce qui est tout à fait compréhensible. Bien non, vous êtes là ce matin, et c'est pour nous des signes que la vie continue. Que finalement, à l'instar de cette parabole, que ce bon grain continue de pousser, parce qu'on a besoin les uns des autres, pour continuer de pousser, et puis pas se sentir tout seul, peut-être dans cet océan de mauvaises nouvelles, cet océan d'ivraie. Et qu'est-ce que nous dit ce bon grain? Vous avez compris dans ce texte, qu'est-ce qu'il nous disait de nous, ce bon grain? Que l'on était fils et filles du royaume. C'est une sacrée identité, ça, hein? Jésus nous parle de cette caractéristique organique et il nous donne un mot. Nous sommes fils et filles du royaume. Et ça, je pense que ça peut nous donner de la force, ça peut nous donner des courages pour affronter tout ce que nous avons à affronter dans ces temps qui sont quand même très particuliers. L'ivraie ne va pas prendre toute la place. Les fils et les filles du royaume que nous sommes vont continuer de croître. C'est la bonne nouvelle que nous donne cette parabole, cette histoire que Jésus nous raconte. Alors oui, il y a cette présence et l'action d'un ennemi. C'est une réalité, sinon je serais dans l'optimisme béat, puis je vous raconterais des balivernes en disant que non, non, tout va bien, on est chrétien, on est fils et filles du royaume, on est fort, rien ne va nous arriver. C'est faux. D'ailleurs, celui qui vous prêcherait de cette manière-là, c'est un faux enseignement. Il y a la présence d'un ennemi, et cet ennemi dans cette histoire, il vient de nuit incognito, semé de l'ivraie dans le champ. Il y a toujours un ennemi qui n'est pas complètement satisfait de ce qu'on est en train de vivre ce matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Il n'est pas satisfait que tout le monde ait dit, bon, on doit mettre le masque, on doit résister, on doit vaincre notre peur pour venir. Mais il y en a un qui n'est pas satisfait. Parce qu'en montrant cette vigueur des fils et des filles du royaume, ça dérange quelqu'un. Ça dérange quelqu'un qui a envie de venir semer, vous savez quoi? La zizanie. Il a envie de venir semer la zizanie. Et en disant cela, je vous donne l'origine de l'expression que nous avons maintenant en français. Cette expression, elle vient de cette histoire que Jésus nous a racontée. Parce qu'en effet, le texte en grec, pour parler de l'ivraie, il appelle ça la zizania. C'est marrant, hein? Ce que vient semer l'ennemi dans le champ, on l'a traduit par un terme de nouveau qu'on n'utilise jamais dans la vie de tous les jours, et même les agriculteurs ne l'emploient jamais, parce que j'ai jamais entendu un agriculteur me parler d'ivraie. De nouveau, ces termes, je ne sais pas pourquoi on les a traduits comme ça. Il aurait mieux fait de parler de mauvaises herbes, ça, tout le monde comprend plus ou moins. D'ivraie, il n'y a personne qui comprend. Et surtout, c'est nettement plus parlant de savoir que l'ennemi, il ne vient pas semer de l'ivraie, mais il vient semer la zizanie. Il vient semer la zizanie dans le champ des fils et des filles du royaume. C'est parlant, hein, ça. Ça nous parle beaucoup plus que la réalité de l'ivraie. L'ennemi, il vient de nuit incognito semer la zizanie au milieu de la communauté des fils et des filles du royaume. Notre expression vient de là. Et pourtant, ça n'arrête absolument pas l'action de Dieu. Dieu le sait, Dieu est au courant, et pourtant Dieu continue de semer inlassablement dans le champ qui est le monde. Alors le risque est grand pour nous quand on assume cette manière de faire à la suite de Dieu d'une communauté organique, que la perception soit celle d'une communauté qui soit peu zizanique. Parce que si on va dans cette direction-là, à la suite de Dieu, une communauté organique qui désire croître, on doit admettre que dans le même temps, ça ne va pas plaire à l'ennemi et qu'il va semer la zizanie. Il y a les deux. Dieu le sait, Dieu est au courant, et pourtant Dieu continue de semer dans le monde, sachant bien qu'il y aura un semeur de zizanie en même temps que. C'est fort, hein, ce que ça nous dit de Dieu. Et pourquoi il le fait? Par amour du monde. Quand on lit le fameux verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, Là, on en a une illustration qui nous fait descendre en profondeur, je trouve, dans cet amour du monde. Il sait ce Dieu qui est le nôtre, qui aura semeur de zizanie, et pourtant son amour est plus fort que ça. Il ne se laisse pas interrompre dans son action par le semeur de zizanie, il le dépasse. Et nous, on doit admettre que les deux poussent en même temps. Ce n'est pas si facile que ça à admettre. On doit admettre que oui, les fils et les filles du royaume, nous sommes entourés par la zizanie, y compris dans l'Église, parce que nous sommes aussi même des fois en nous-mêmes des semeurs de zizanie. Il y a une partie fils du royaume, il y a une partie semeur de zizanie. On est aussi très fort pour avoir les deux. On est très fort pour aussi être dans cette situation-là. Donc, c'est vrai que notre mission, notre labour, c'est de favoriser la croissance des bons grains en tant qu'Église, sans chercher à arracher l'ivraie, donc la zizanie d'au milieu de nous. Quand on y réfléchit bien, c'est vraiment paradoxal, parce que tout bon jardinier qui se respecte, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il arrache les mauvaises herbes. Je me souviens quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer au badminton avec mon papa. Et mon papa, il a un toc, vous ne lui raconterez pas, hein. Mais il a un toc, c'est qu'il aime beaucoup arracher les mauvaises herbes. Alors il faisait une partie, puis il faisait comme ça, il arrachait vite une mauvaise herbe, puis il essayait de prendre le volant, et puis il arrachait une mauvaise herbe tellement elle lui crevait les yeux dans le gazon que c'était impossible pour lui de ne pas voir ces mauvaises herbes. Avoir vos mines réjouies, ça ne concerne pas que mon papa, visiblement. La mauvaise herbe, ça nous dérange fondamentalement. Alors moi, ça me dérangeait parce que j'étais deux fois sur trois, il loupait le volant parce que voilà. La mauvaise herbe était plus importante. Il y a une forme de quadrature du cercle pour nous en tant qu'Église de se dire que pour favoriser la croissance, on ne doit pas s'occuper d'arracher la mauvaise herbe, d'une certaine façon. On doit laisser ça à Dieu qui va le faire à la fin des temps. On doit laisser ça, cette action à Dieu qui, lui, va faire le tri et juger, c'est-à-dire trancher ce qui est du bon grain et ce qui est de l'ivraie. Il y a quelque chose qui nous dépasse et en même temps, je crois qu'il y a une forme de sagesse à considérer notre mission ainsi. Considérer notre mission axée sur la croissance, la persévérance, parce qu'il faut tenir le coup, hein, en tant que fils et filles du royaume, avec cette zizanie autour de nous, et la confiance en Dieu qui, lui, à la fin des temps, va juger ce qu'il en sera. Dieu sait, et il l'assume, on le voit aussi dans la parabole du semeur qui précède cette parabole du bon grain. Dans cette parabole du semeur, Dieu y part pour semer. Et il sème dans quatre champs différents, et seulement un de ces champs va produire du bon grain. Et pourtant, il sème dans ces quatre champs. De nouveau, on voit cet amour de Dieu qui sème dans le monde, sachant pertinemment bien qu'il y aura un semeur de zizanie. Il y a vraiment une continuité là dans l'action de Dieu. Ça implique pour nous et notre manière de voir Dieu que lorsque Dieu parle de croissance, il ne parle pas de rentabilité. Puis nous, là, on a un truc à déconstruire parce que nous, quand on parle de croissance, automatiquement, la petite lumière qui s'allume, c'est la rentabilité. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il parle de croissance sans parler de rentabilité, parce que s'il parlait de rentabilité, il aurait inventé une super machine qui arrachait toute la zizanie du milieu du champ. Il décide de ne pas le faire. Et c'est une décision, parce qu'il aurait toute la puissance de pouvoir le faire. Il décide de ne pas le faire. Même le fameux verset qui nous invite à la mission et qui nous dit « Faites de toutes les nations des disciples », souvent les évangéliques, on le traduit « Faites de toutes les nations le maximum de disciples ». Mais le terme « maximum », il n'y est pas dans la Bible. Vous pouvez chercher longtemps, de midi à 14 h, vous n'allez pas trouver ce terme maximum. C'est fait de toutes les nations, alors effectivement, on est appelé à aller tout partout sur la surface du globe, de faire de toutes les nations des disciples, mais pas de faire le maximum de disciples. Cette action-là, on la laisse à Dieu. On la laisse à Dieu qui nous fait confiance d'être avant tout, nous, des individus organiques, c'est-à-dire des individus susceptible de croissance, susceptible de grandir en lui, de nous laisser toujours plus influencer par lui, et puis que ce bon grain, finalement, commence à prendre plus d'espace que l'ivraie n'ait plus assez de soleil, d'espace pour lui croître. C'est le pari que Dieu fait. Il nous donne sa parole, il nous donne son Esprit Saint pour qu'il lui laisse l'espace que ce bon grain que nous sommes, en tant que fils et filles du royaume, on puisse s'épanouir. Et puis une plante, vous savez, si elle prend plus en plus de place, les autres qui sont à côté, elles diminuent. Je crois que c'est le pari que Dieu fait, que ce bon grain prenne de plus en plus d'espace et que les autres éléments de zizanie diminuent. C'est exactement le même calcul, d'après moi, en tant que communauté. Que nous puissions favoriser cette croissance qui part dans tous les sens, parce que c'est organique, il y a une forme de non-contrôle, ça peut partir là, ça peut partir là, ça peut partir là, et que l'on puisse favoriser cet esprit de groupe, cette communion, pour qu'ensemble, on puisse croître et puis ne pas se laisser impressionner par la zizanie qu'il y a autour de nous. Dit autrement, c'est de permettre finalement à l'Esprit Saint de souffler librement dans nos cœurs et dans notre communauté. D'être tendu, zélé, consacré à l'écoute de Dieu, et c'est déjà pas mal. Pas besoin d'avoir encore 15 programmes pour se dire comment est-ce qu'on va croître. Être simplement tendu, zélé et à l'écoute de Dieu, je crois que c'est ça que Dieu nous demande, de nous faire confiance à son action de croissance au milieu de nous. Parce qu'en fait, on est très fort pour nous-mêmes aussi mettre des barrières à l'action du Saint-Esprit. Ça peut prendre plusieurs formes, mais nous aussi, on peut être des créateurs de zizanie. Nous aussi, on peut être des créateurs de barrières, des empêcheurs finalement pour l'Esprit Saint de tourner en rond. Des empêcheurs pour l'Esprit Saint d'aller là où il doit aller et de faire croître. Et c'est le texte qui nous dit aussi, hein, que les causes de chute de ceux qui font le mal sont une réalité. Ces causes de chute, elles s'incarnent, ce n'est pas une dimension abstraite comme ça qui viendrait de je ne sais pas où. L'action du malin, du diviseur, du diable, s'incarne aussi dans nos actions à nous. Ce n'est pas une fatalité, parce que comme je vous l'ai dit, le bon grain, la croissance prend le dessus, et c'est ce que nous rappelons normalement quand on prend la Sainte Cène, mais à la croix, Dieu a pris cette réalité-là en compte, et il l'a pris surtout en charge. Laissons simplement l'Esprit Saint couler au milieu de nous et laissons-nous être interpellés par cette confiance qu'il nous fait, cette croissance à laquelle nous sommes appelés. Et cette croissance, elle sera finalement mesurée, et cette zizanie sera mesurée à la fin des temps. Et il y a un aspect très frustrant avec cette idée que Dieu est le juge à la fin des temps. Et là, je reprends un exemple scolaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous deviez rendre un travail, ou bien même ceux qui sont encore en études actuellement, imaginez que vous rendiez votre travail de diplôme, que vous vous êtes donné à fond pour le réaliser, que vous avez mis toute l'énergie pour le faire, et que le prof vous annonce que le résultat vous sera donné dans 10 ans, ou dans 15 ans. Ou bien votre prof à l'école, si ma fille elle va passer ses deux premiers tests là, la semaine prochaine, et puis elle les fait, puis la prof lui dit, alors les résultats seront donnés tous à la fin de l'année. Je n'ose même pas imaginer dans la classe les bons qu'ils vont faire et les conseils d'élèves qui vont se mettre en place pour dire non, les résultats, on les veut maintenant. Ben nous, on est un peu, c'est un peu peut-être la mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais on est dans cet aspect un peu très frustrant de se dire que l'on doit vivre avec ces deux éléments et que le jugement final ne sera donné qu'à la fin des temps. Et que ce jugement, en plus, il ne m'appartient pas à moi, même moi en tant que pasteur, mais il appartient à Dieu seul. Et ça, si on y réfléchit bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il y a quelque chose de frustrant. L'Église est donc l'endroit là où sont réunis les fils et les filles du royaume. Et là où le royaume pousse, pas l'endroit où nous sommes en train de nous juger les uns les autres et de juger ce qui se passe autour de nous. Notre focus est uniquement concentré sur cet aspect de la croissance et notre identité de fils et filles du royaume. La tentation de regarder où est la zizanie, elle est extrêmement forte. Dieu et Jésus, à travers cette parabole, nous proposent plutôt de lui déléguer la tâche. Et ça, il n'y a pas que dans cette histoire que Jésus nous raconte, c'est dans l'entier du texte biblique qu'on peut voir cette réalité que Dieu est le seul juge. Dieu est le seul juge et il s'en occupe très bien. n'est pas notre tâche. Notre tâche, c'est de rester confiant en lui et de favoriser cette croissance en nous et ensemble, les uns avec les autres. Alors, je vous propose, comme c'est de coutume avec cette série de prédications sur la vie continue, deux défis. Comme ça, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. C'est assez agréable ce matin. Il y en a deux à proposer. Des défis plus un peu introspectifs. Comment est-ce que j'accepte cette croissance conjointe du bon gré, du bon grain, pardon, et de livrer? Est-ce que c'est paralysant? Est-ce que c'est frustrant? Est-ce que c'est source d'espoir? Comment est-ce que je vis ces deux aspects-là? Et le deuxième défi, on est invité à faire de la place pour favoriser cette graine qui pousse. On est invité, d'après moi, à nous rendre disponibles en confiance à Dieu et en son esprit. Et ma question, c'est de savoir où et comment est-ce que cette semaine, je décide de faire de la place pour favoriser la croissance en tant que fils et fille du royaume. Où et dans quel domaine et comment est-ce que je favorise cette croissance, cette confiance que Dieu place en moi. Alors je nous laisse avec ces défis, je vous laisse peut-être 1 ou 2 minutes de silence pour les faire descendre en nous, et je vais simplement prier pour conclure ce moment. Notre Père, merci parce que tu nous fais confiance et merci parce que nous pouvons avoir confiance en toi. Merci parce que tu nous donnes cette identité de fils et filles du royaume. Et merci parce que tu nous donnes cet exemple unique que malgré tout, et ce tout englobe vraiment tout, ton amour est au-dessus. Ton amour est plus fort, comme nous l'avons chanté. Ton amour prend le dessus. Et c'est dans ce sens-là que tu es au contrôle de nos vies. Dans ce sens-là que tu es au contrôle du monde, parce que tu décides consciemment de continuer à semer, de continuer à favoriser la croissance, de continuer à semer ton amour là où il semblerait qu'il n'y ait plus de place pour lui. Seigneur, merci de nous savoir à ta suite, à la suite de ce grand Dieu qui aime au-delà de tout, à ce grand Dieu qui contrôle tout parce qu'il est amour. Que nous ne nous laissions pas impressionner par cette zizanie autour de nous, par cette zizanie ambiante qui est assez forte ces jours-ci. Mais que nous puissions nous confier en toi, sûr de ce que tu as fait et sûr de ta place au-dessus de tout. Amen.